se mêler à Jésus-Christ. Et il est heureux, joyeux même, nous dit notre chroniqueur. Lui-même doit trouver bien étrange cette nouvelle situation, mais il s'en félicite comme d'une aubaine. Que la vie est donc intéressante, et comme il se réjouit de cette liberté du cœur délivrée des soucis du monde. Lui, jadis si friand de plats délicieux, mange avec appétit les rogatons qu'il tire de sa besace. Ce festin achevé, il se rend dans la basilique à l'autel de Saint-Pierre où se déposent les offrandes des fidèles. Elles lui paraissent scandaleusement chiches. Est-ce ainsi qu'on traite le prince des apôtres? Et par un de ces gestes de grand seigneur qui lui sont restés chers, il vide sa bourse à grand bruit dans l'ouverture sous l'autel. Quelle magnificence! Autour de lui, on l'admire. Un peu confus, il se sauve, rejoint ses amis les pauvres avec qui il passera la journée. On dirait qu'il veut disparaître parmi eux, rivalisant avec eux dans ses guenilles, la main tendue, habitée par une joie sans nom. Mais pourquoi n'a-t-il pas donné cet argent ou partie de cet argent aux pauvres qui étaient avec lui? C'est la question qui vient immédiatement à l'esprit. Mais le personnage est plein de contradictions. Le baiser au lépreux. De retour chez lui, il reprend ce mode de vie qui devait sembler si étrange au sien, à sa mère, et aussi à celui dont on parle si peu, son frère Angelo, qui n'approuvait pas. Où donc était le jeune homme brillant et sûr de lui-même dont les chants égayaient le voisinage? La mise, à présent modeste, qu'il affectait de trouver à son goût. Quelle lubie en était l'origine? Qu'en pensait le père et qui pouvait-il? Tempêter ne servait à rien. À l'âge de 25 ans, son fils était libre de s'habiller à sa guise, pourvu qu'au magasin sa tenue fût correcte. Mais le magasin n'était-il pas déjà quelque chose du passé? On imagine le désarroi que jetait l'excentrique au sein d'une famille installée dans le confort et les conventions bourgeoises. Enfermé dans sa chambre, il y passait des heures à prier quand il ne sortait pas pour visiter ses nouveaux amis, les pauvres. Se doutait-il du malaise qu'il créait autour de lui? Aux yeux du monde, faire le saint personnage, c'était porter un jugement tacite sur les personnes moins férues de dévotion, bonnes catholiques peut-être, mais sans étalage. Et puis, François souriait, et son charme désarmait les critiques. Parfois, un nuage venait assombrir le bonheur du nouveau converti. Des pensées qu'il chassait aussitôt, mais qui n'en revenaient pas moins avec une persistance suspecte, une nostalgie subite de la bonne vie qu'il menait hier. « Du temps de ma vie pécheresse », devait-il écrire plus tard. Et quand un Italien, fût-il un saint, parle de sa vie pécheresse, on sait bien ce que cela veut dire. Alors d'où venait ce trouble soudain? À d'autres moments, une idée folle lui surgissait à l'esprit et ne le quittait pas. La vieille bossue d'Assise. Elle était d'une laideur monstrueuse dans sa difformité. Et François s'était mis en tête que s'il persévérait dans sa vie de continence et de mortification, il serait un jour comme elle. Pouvait-on imaginer chose plus absurde? Mais l'idée fixe tenait bon. De qui procédait tout cela sinon du démon? C'est ce que François finit par se demander. Et comme il lui arrivait si souvent dans des heures de désolation spirituelle, le Seigneur fit entendre sa voix. Résonnait-elle dans le silence comme une voix humaine, ou parlait-elle dans le secret au cœur du prédestiné? L'apercevait-il comme un son venu de l'extérieur, ou l'appréhendait-il intérieurement comme une pensée, mais si forte et si doucement impérieuse qu'elle créait cette illusion de frapper l'air? Qu'importait? Cette voix, il la connaissait si bien. Elle l'avait tant de fois réconfortée. C'était la voix même de l'amour, celle dont les inflexions lui étaient si chères. Ce jour-là, elle l'instruisit sur la transformation intérieure que Dieu attendait de lui. « Ce que tu aimes encore de façon charnelle et vaine, remplace-le par des valeurs spirituelles. Préfère l'amertume à la douceur si tu veux me connaître. » L'amertume? François était prêt à tout pour suivre le Seigneur dans la voie la plus rebutante. Du coup, la tentation démoniaque s'effaça comme un mauvais rêve, et le dégoût le prit au souvenir des voluptés dont il avait étourdi sa jeunesse.